Qu'est-ce que c'est que cette connerie?
C'est le Canu Info.
Ah,
bah, je savais pas.
Mais c'est celui du vendredi en plus.
Quelle heure?
À 19h. Attends que j'appelle ma grand-mère. Tu lui dis de mettre le 102.2. La plus rebelle des radios. La plus rebelle des radios. Waouh.
C'est gros, c'est bleu, ça fait pas de bruit, ça se cache derrière, c'est clair la nuit. Ça te surveille, ça te suit, ça te guette. Si tu portes une casquette, c'est derrière toi quand tu conduis. Ça veut débarquer ton permis, ton alcoolémie et ton fuchsie. C'est tout ton vénère et c'est mal poli. Ça te saute à la gueule comme une grosse bête. Un monstre chelou avec trois têtes. Prends mis la chute dans une estafette. C'est quoi? C'est quoi?
C'est Camille Info.
Radio Canu 102.2. Canu Info du vendredi.
Canu, donne-moi des infos.
C'est 102.2, la radio plus ribelle.
Paniquez tout.
Canu Info du vendredi.
On ne nous entend pas.
Si, toi, on t'entend, j'ai l'impression.
Allô. Bonsoir, bonsoir. Il y a un micro qui fonctionne et l'autre pas du tout. Eh bien, on n'a qu'à partager le même micro. Hein.
Voilà, oui.
Bon, ben, bonsoir. Vous êtes sur le Canu Info du vendredi. Il est 19h07. On a un petit retard et on est en sous-effectif. Donc, ça va potentiellement être un petit Canu Info. Ce soir, on va vous parler de...
Alors, on va commencer par vous diffuser un reportage sur un facteur de La Poste qui risque le licenciement après avoir été agressé par les flics.
Ensuite, on va vous parler de l'abandon du projet de l'A45.
Et on vous reparlera, mais là, sur, d'un point de vue national, sur la poursuite de la grève des facteurs et des factrices de Riantec.
Pour vous donner des actus sur ce qui se passe à la plaine à Marseille.
Ensuite, on ira dans les Alpes et on vous parlera donc d'une deuxième expulsion de lieux en soutien aux migrants et aux migrantes.
Pour vous parler de comment 250 lycéens et lycéennes ont empêché l'expulsion d'un camarade à Brest. Bravo.
On vous fera la lecture d'un communiqué non-lieu de mort, Angelo Garand.
Et ensuite, grosse coupe nationale, les compteurs Linky explosent et ils enflamment les foyers français.
Et dans l'international, on ira en Grande-Bretagne et on vous parlera de gaz de schiste.
Et peut-être, si on a le temps et si on a des infos à vous donner, surtout, on vous fera un petit agenda. Bonne écoute!
Reportage sur le rassemblement qui a eu lieu à Lyon cette semaine.
Du Rouennais de la région qui s'appelle Stéphane Boulet.
En région lyonnaise, plus précisément à Pierre-Bénite.
Pour savoir où est-ce qu'on en est de la lutte des instits à Voix-en-Velin.
Reportage sur la grève
qu'on a eu à
Canu Info du vendredi. Rubrique locale. On a un petit problème technique, donc on a qu'à passer au national et vous faire des petites actus de la plaine pendant que moi je vais chercher mon ordinateur pour vous mettre le petit reportage après, n'est-ce pas?
Tout à fait. donc du coup, donc je vais vous parler, je vais vous donner un peu quelques nouvelles de la plaine, de ce qui s'est passé un peu cette semaine. Donc la plaine, c'est un quartier de Marseille. Donc depuis jeudi dernier, donc c'est un quartier qui est un peu en état de siège. La Soleam, donc société publique financée par la mairie de Marseille et Marseille Provence. Métropole a commencé son opération donc de destruction. Donc ça, c'était la semaine dernière. Donc une armada de sous-traitants escortés de beaucoup de CRS ont construit une enceinte pour protéger du coup leur sale besogne. Et donc voilà. Donc c'est un chantier qui est prévu pour 2 à 3 ans. Donc c'est 3 ans de travaux sans accès à la place. Avec donc une mise en danger des 300 forains qui travaillent, des petits commerces alentours. Il va y avoir pas moins de 115 arbres historiques donc, qui vont être voués à être arrachés. 21 nouvelles caméras vont être également installées. Donc voilà, c'est trois années où les pouvoirs locaux espèrent voir les attachements à cette place se déliter. Les petits commerces coulés, les habitants, ses habitants, les bavards, les fêtards, tous les plénards s'en allaient. Et donc, ben, du coup, pour faire une place qui va être vide, vide de vie, sous surveillance, et du coup, avec un immobilier qui va grimper en flèche, bien évidemment. Donc, la plaine, c'est une place qui est assez peuplé, où il y a de multiples usages, où de multiples usages se succèdent, s'entremêlent. Il y a un des plus grands marchés de Marseille là-bas, 3 fois par semaine. Donc il y a des stationnements gratos, etc., etc. Il y a des parties de foot, enfin il y a de la vie, quoi. Donc voilà, et pas mal de souvenirs pour les gens qui habitent là-bas. Et donc là, ces derniers jours... Il y a eu une grosse opération pour amorcer ces travaux. Donc il y a eu le week-end dernier une lutte et des manifs qui ont réuni à peu près un demi-millier de personnes. Et lundi 15 octobre, donc là cette semaine, la Soleam a installé des barrières de chantier tout autour de la plaine. Alors malheureusement, ils n'avaient pas compté sur le Mistral, qui les a toutes remises au sol pendant la nuit. Donc voilà. Mardi, s'est passé pas mal de choses. Donc mardi, malgré l'absence de ces barrières, ce sont des élagueurs qui sont venus commencer à abattre des arbres dans lesquels se sont installées quelques personnes. Du coup, il y a le RAID qui est venu les déloger. 8 personnes ont été interpellées et 3 sont ressorties. Et les CRS ont aussi blessé plusieurs personnes. Donc une première personne, c'est une femme âgée qui traversait la place, qui s'est fait violemment pousser par un CRS. Elle est tombée lourdement au sol, restant à moitié consciente pendant 20 minutes. Elle a été évacuée par les pompiers. Elle est sortie de l'hôpital le soir même avec un bras et un pied cassé. Une seconde s'est fait salement amocher à l'œil. Donc a priori au moment où les flics cherchaient à faire une arrestation ciblée. Donc ils lui sont tombés dessus, l'ont frappé, mais ils sont aperçus que ce n'était pas la personne qu'ils recherchaient, donc pas si ciblé que ça. La troisième, donc, était blessée, donc il y avait une jambe plâtrée. Après s'être fait gazer, elle a fait un malaise respiratoire. Il a été évacué par les pompiers après que ces derniers étaient appelés par les habitants et les habitantes sur place. Et en fin de journée, de cette journée du mardi, donc, les CRS ont remis le couvert en défonçant une habitante de 50 ans. Donc bilan, une clavicule, épaule fracturée. Elle a été évacuée par les pompiers. A souligner aussi que mardi, dégoûté de travailler à massacrer les arbres et à participer à la démolition du quartier, deux intérimaires embauchés par NGE, donc qui est une des grandes entreprises qui participent au chantier et qui, notamment au chantier initiaux de dégagement de cette plaine, donc ont tombé leur chasuble fluo en fin de matinée et ont quitté le chantier. Donc à souligner que c'est pas forcément évident d'abandonner le boulot et de se faire radier de sa boîte d'intérim, mais en tout cas, eux, ils ont fait ce choix-là. Depuis, le quartier salue leur acte, et nombre d'habitants et d'habitantes tentent d'expliquer aux auto-ouvriers qu'ils peuvent, eux aussi, décider de ne plus subir. Il a même été proposé donc, par les personnes là-bas de collecter pour les éventuels futurs grévistes ou démissionnaires, de faire des collectes et de les inviter à manger et à boire un petit coup. Donc voilà. Et ensuite, sur là concernant, donc je vais faire un saut, jusqu'à aujourd'hui, où en fait donc les ouvriers sont partis vers midi, suivi deux heures plus tard par 15 camions de flics. Donc là, aujourd'hui, la place respirait un peu à nouveau. Et du coup, il y a eu un appel aujourd'hui, donc dans l'après-midi, pour venir préparer la grande manif qui aura lieu donc demain. Donc là, cet après-midi, c'était un peu la création de diverses structures en papier mâché, a priori, mais aussi de banderoles. Donc voilà, et donc c'est pour la manif de demain qui est du coup à 14h. Donc pour ceux qui sont sur Marseille ou pour les personnes qui désirent aller là-bas sur Lyon, depuis Lyon. Donc voilà, donc il y a une grande manif qui est au départ du Vieux-Port, c'est à 14h. Et à 19h, il y a un grand banquet donc autogéré qui aura lieu sur la plaine. Donc voilà, c'était pour vous parler un peu de ce qui se passe là-bas.
Et magie, le deuxième micro fonctionne. On revient à la rubrique locale pour vous donner une très bonne nouvelle que vous avez sûrement vue sur les journaux. Le projet de l'autoroute A45 entre Lyon et Saint-Étienne, et plus précisément entre la Fouillouse et Brigné, est définitivement abandonné. L'État privilégie les alternatives routières et ferroviaires à l'A45, a indiqué la ministre Elisabeth Borne au journal Le Progrès ce mercredi 17 octobre. L'information avait fuité plus tôt dans la journée par la députée LREM de la Loire, Valéria Formontian, suite à une réunion entre la ministre et les parlementaires de la majorité de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, la ministre ? Elle dit, je cite, « Si ces projets étaient simples et consensuels, l'autoroute 45 serait réalisée depuis longtemps. On ne peut pas ignorer le prélèvement de terres agricoles, l'impact environnemental, l'absence du grand contournement de Lyon sur lequel la 45 doit déboucher. » Bref, un peu de bon sens dans ce monde. Elisabeth Borne a aussi confirmé que 400 millions d'euros que l'État devait investir sur la 45 seront consacrés à d'importantes restructurations de la 47 et à la liaison ferroviaire entre Saint-Étienne et Lyon. Pour la coordination des opposants à la 45, l'abandon du projet est une très grande victoire, fruit d'une mobilisation citoyenne exemplaire qui a eu raison d'une autoroute inutile et destructrice. Mais ils mettent quand même en garde et ils demandent des garanties pour que vraiment le projet de la 45 soit abandonné, que la page soit tournée et qu'il y ait vraiment des alternatives qui soient mises en place. Donc bravo pour cette victoire. Et donc si la technique nous le permet, on va maintenant vous passer un reportage qui a été enregistré lundi dernier. Il y a eu un rassemblement devant la Poste à Lyon, la place Antonin-Poncet, parce que Christophe, facteur du coup à la Poste, était reçu en commission de discipline parce que quelques mois auparavant, il avait été agressé par des policiers et mis en garde à vue et accusé de résistance, coups et blessures et de stationnement gênant parce qu'il avait mis sa camionnette de la poste sur un passage piéton devant la poste des terreaux. Endroit où tous les facteurs et factrices de Lyon se garent apparemment depuis des siècles. À l'occurrence, Christophe n'est pas blanc, donc la police s'est peut-être acharnée sur lui pour des raisons racistes. Donc la poste a bien pensé de le convoquer pour lui signifier son pré-licenciement. Et donc lundi, on était devant la poste de Bellecour pour le soutenir. Donc le micro des Canu Info du vendredi a traîné par là. Bonne écoute.
Bon, alors le 21 juin, Christophe a été agressé par un policier municipal alors qu'il était en train de rejoindre son camion pour dégager l'emplacement qu'il occupait. Le policier municipal a cherché en fait la petite bête à Christophe en disant à son collègue, bon, on l'arrête pourquoi ? Stationnement illégal ? Allez, stationnement illégal. Et là, c'est à partir de là que ça a commencé à dégénérer. Bref, le 21 juin, Christophe a été embarqué par la police. Vous avez vu tous la vidéo sur Internet. On dirait qu'on embarque un malfrat. Il s'est retrouvé 4 heures en garde à vue. Il lui était jamais arrivé, il en est sorti choqué. Et la meilleure chose qu'a trouvé la poste à faire quand il est revenu de garde à vue pour récupérer ses affaires au bureau de poste, ça a été de lui faire subir un interrogatoire, très clairement. Il suffit de voir le compte-rendu du 21 juin. C'est un interrogatoire dans lequel la DRH, le responsable production et le directeur de l'établissement lui disent « Vous avez des papiers, une convocation que vous a remis la police, quelque chose donnez-nous, on va s'en occuper. » Donc. Le collègue complètement choqué de bonne foi, il donne les documents, il ne s'attend pas à ce que derrière il va se faire poignarder. Et c'est ce qui se passe le 17 août quand il reçoit, autour du 17 août, quand il reçoit une convocation pour un entretien préalable au licenciement. Et là, on tombe des nues, quoi. On tombe complètement des nues. Donc le 29 août, entretien préalable. Ça s'est passé de manière assez musclée aussi, tout simplement parce qu'on a tout de suite compris que la poste se basait sur les éléments du pénal pour mener sa procédure. Et pour nous, c'est juste pas possible. Donc voilà. Et puis après l'entretien préalable, un mois après, convocation pour la commission consultative paritaire, qui est l'équivalent d'un conseil de discipline, parce qu'on est à l'école, qui se réunissait aujourd'hui. Et il se trouve que hier, dans le cadre d'un entretien par rapport au préavis que Sud Poste Rhônin avait déposé pour les facteurs ce jour même, on rencontre le DSCC, donc le directeur de la DSCC, de la direction du courrier sur le Rhône et l'Ain, qui nous explique qu'au bout de 45 minutes de discussion aussi, le report de la procédure disciplinaire contre Christophe allait être acté en début de commission consultative paritaire, en attente du prononcé du jugement du tribunal correctionnel de Lyon. Donc, bon, on n'est pas dupes. On a eu la confirmation. On a passé un peu plus d'une demi-heure dans la salle. Ils nous ont expliqué que voilà, la procédure était reportée aux délibérations, donc après le mois de janvier certainement. On n'est pas dupes. On sait très bien ce que la poste attend. Ils nous l'ont même dit, en quelque sorte, puisqu'ils se réservent le droit, selon le jugement, de maintenir ou pas la procédure et de modifier les griefs de la procédure. C'est festival, quoi. On fait comme on veut. On modifie les griefs de la procédure pour pouvoir être sûr de pouvoir sanctionner un agent.
La poste, elle utilise quel grief contre lui, alors ?
Alors, le stationnement illégal, injure aux forces de l'ordre, refus d'obtempérer, agression physique contre un policier. Et j'ai oublié encore un autre grief.
Et lui a jamais été écouté par la poste. En fait, il a été considéré comme coupable dès le premier instant.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'à la poste, vous êtes par définition coupable. La présomption d'innocence n'existe pas. Enfin, on nous dit que si, mais la réalité des faits L'interrogatoire du 21 juin le montre. On est coupable, d'abord.
Et au tribunal correctionnel ?
Agression avec arme par destination et injure et agression verbale. Enfin, j'ai plus les termes exacts, mais voilà. Donc deux points. On est loin des 6 ou 7 points que la Poste a retenu, elle. Alors elle nous dit, mais oui, c'est pas la même chose. Et puis il n'y a pas de concordance entre l'enquête, entre guillemets, de la Poste, la procédure de la Poste et la procédure pénale. Oui, enfin, sauf que c'est intéressant, ça. Mais pourtant, c'est là-dessus, c'est sur l'enquête pénale qu'ils se basent pour mettre la procédure. Et ils se basent maintenant, qu'on leur a dit quand même souffler le 29 août, pendant l'entretien préalable, que, finalement, on va attendre le jugement de la justice, du tribunal correctionnel, pour éventuellement continuer la procédure. Il va falloir y arrêter un moment. C'est pas sérieux, c'est... Enfin, et maintenant, la bataille... Alors, la première victoire, c'est effectivement que la procédure soit reportée. Première victoire. Mais c'est pas la guerre. Et la deuxième bataille, c'est maintenant le pénal, le tribunal pénal. Et donc, on appelle au rassemblement le 15 novembre à 13h, devant le tribunal correctionnel de Lyon, rue Servian, pour montrer à la population, aux magistrats, aux avocats, enfin, toutes les personnes présentes, que Christophe n'est pas seul...
Rubrique nationale.
Je ne céderai rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes.
Il y a, d'un côté, un nouveau totalitarisme, et c'est nous.
C'est pourquoi j'ai décidé qu'en novembre prochain, nous sortirons de l'état de droit.
Et on continue à vous parler de la Poste, cette fois dans le Morbihan, où des facteurs et factrices sont en grève depuis le 8 octobre 2018. Donc, ils entament leur 11e jour de grève aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe à Riantec ? C'est que la Poste veut leur imposer la fin de la vacation unique avec une coupure méridienne, c'est-à-dire avec une pause à midi. La tournée sacoche qui entraîne une activité de distribution à 100% sans le moindre contact avec les collègues ne passe pas plus. Et en tout ça, du coup, les grévistes, ils se trouvent face à un refus total de la Poste de discuter sur les conditions de travail et de négocier là-dessus. Donc voilà, comme il n'y a aucune réponse de la part de la Poste, la grève continue. Et ce qui est aussi extrêmement grave, c'est que la Poste du Morbihan cherche avec tous les moyens, même illégaux, de s'attaquer aux grévistes. En général, la Poste demande aux cadres de se vêtir en facteurs et factrices pour distribuer tant bien que mal les tournées des facteurs et des factrices grévistes, donc pour les remplacer. Sauf que depuis les grèves à Rennes, du coup, ce qui était plus tôt cette année en Bretagne contre du coup la Poste, bien évidemment, une nouvelle génération de facteurs et factrices appelée Facteurs Service Expert, FSE, est appelée à casser les grèves. Ce personnel non cadre a un contrat de travail qui permet de travailler en dehors de son centre de distribution, mais uniquement sur le département 35 de l'Ille-et-Vilaine et non dans le 56. C'est donc en toute illégalité que la Poste exige à ce personnel qui serait du coup affecté au 35 et qui a été utilisé pour casser les grèves à Rennes, d'aller à Riantec dans un autre département. Nous savons, là je vous parle du syndicat PTT Ille-et-Vilaine, il sait que des FSE de Rennes, Colombier, Fougères, Rennes-Crimée se sont déjà rendus sur place en contradiction totale avec les droits du travail. Donc courage et bravo aux facteurs et factrices d'Ariantec qui sont en grève au 90% depuis le 8 octobre 2018. Et on passe du côté des Alpes, où il y a eu une expulsion le 17 octobre, donc mercredi dernier. Il s'agit de la maison de Cézanne à Gap, qui était un lieu de vie d'une vingtaine de personnes migrantes et qui a été expulsé à 7h du matin sur l'ordre de Madame la préfète des Hautes-Alpes, sous la menace des forces de l'ordre déployées pour l'occasion. Les personnes expulsées ne se sont pas vues proposer des solutions de relogement et deux personnes ont été aussi placées en garde à vue. La maison a été vidée complètement par les agents municipaux sous protection des gendarmes mobiles. Elle a été murée. Alors, qu'est-ce que c'était la maison Cézanne ? C'est une maison qui avait été occupée par le collectif Un Toit, Un Droit en 2016. Et à la base, ça avait été occupé pour trouver une solution d'hébergement pour une famille à la rue avec des enfants. Depuis, il y a eu beaucoup d'autres personnes qui ont pu profiter de cette maison, car du coup, ces lieux a servi à héberger plus de 80 personnes, dont beaucoup n'avaient aucune autre solution d'hébergement, bien qu'elles auraient le droit d'en avoir un, bien évidemment, fourni par l'État ou par les collectivités territoriales. Mais aussi, ces lieux sont devenus un lieu ressource pour se reposer, pour pouvoir cuisiner, parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de familles qui sont hébergées par l'État, sont hébergées dans des chambres d'hôtel, du coup n'ont pas la possibilité de cuisiner. Et on sait très bien que de s'acheter à manger des repas tout prêts, à tous les repas, c'est extrêmement cher. Du coup, ces familles pouvaient aller à la maison Cézanne pour cuisiner. Et ce qui crée énormément d'échanges entre personnes en situations différentes. Voilà, tout ça, c'est fini mercredi dernier. Et tout ça, c'était en danger depuis le mois de mai, quand la commune de Gap avait assigné le collectif au tribunal en vue d'une expulsion. Le 9 août 2018, le juge d'application des peines avait refusé le délai demandé par le collectif concernant cette expulsion. Du coup, mercredi, expulsion à 7h du matin, à 14h, il y avait déjà un rassemblement qui avait été appelé. Et à 19h, les personnes qui sont retrouvées à la rue sans solution d'hébergement ont décidé de créer un campement devant la préfecture, donc entourées de leur soutien. Ce campement dure depuis mercredi. Du coup, il n'y a que 3 personnes qui sont vues proposer par la préfecture une solution d'hébergement temporaire. Et les autres personnes sont encore dans la rue avec des soutiens qui, quand même, ont pu créer une cuisine populaire et de solidarité. Il y a quand même eu hier une charge de 40 gendarmes mobiles. Et les deux gardes à vue qui ont eu lieu mercredi sont toujours en cours. Donc peut-être qu'à 7h, elles sont terminées parce que 48 heures, c'est quand même le maximum de durée possible pour une garde à vue. On leur souhaite. Du coup, si vous voulez les soutenir, vous pouvez joindre le collectif Un Toit, Un Droit, au 07 53 76 06 47 ou bien l'adresse mail untoitundroit@reza.net. Et on ne peut pas s'empêcher de faire le lien avec une autre expulsion qui a eu lieu proche de la frontière. Il s'agit du lieu appelé Chez Jésus, qui a été du côté italien de la frontière, vers Clavière et dans les hauteurs, dans les Alpes, et qui était un lieu où les migrants et migrantes qui essayaient de passer la frontière à pied, donc dans la montagne, pouvaient trouver un lieu pour se reposer, pour trouver des habits adaptés pour l'hiver. Donc c'était un lieu qui était quand même essentiel pour limiter les dangers, les risques de la traversée en montagne, sachant qu'une traversée en montagne, en se cachant des gendarmes, prenait plusieurs jours pour une personne migrante. Chez Jésus a été expulsé la semaine dernière. Et bien évidemment, les militants et militantes luttent pour trouver d'autres solutions pour ces personnes. On vous laisse avec un petit moment musical qui est plutôt en lien avec les informations que vous a données tout à l'heure sur Marseille.
M-A-R-S-E-I, 2-L-E est à la une. Je reconnais plus ma ville, je ne reconnais plus ma rue. Où est mon centre-ville, celui d'avant a disparu. Q-N-Q-S-C-V à tous ces enfants de la rue. À nos rues indomptées, génération du grabuge. Ma ville entière a sombré, soumise, ombrée. Pour en faire une belle ville de la côte d'Azur. Marseille City en chantier, dernier coup de massue. En faveur de leur modèle, dédossé sous leur cocktail. Grotesque à l'heure où mes frères saluent. Pendant qu'ils construisent leurs hôtels, plus belle est ma ville que dans vos têtes. Marseille refait à notre insu. Petit délimange de longue peine au promet ou à l'une. Pour pas grand chose dorénavant, on te fera Dieu. Qu'est-ce qu'est devenue la Joliette après expulsion par centaines? Certainement parce qu'on aurait voulu où est passée la vie du bled. Paris, ce temps est révolu, capitale de la culture européenne. Si c'était une blague, c'est sûr qu'on ne l'aurait pas cru. Marseille redessinée par un remède, venu chambouler toute la culture de la ville. L'écart se creuse, ressent la fracture qui souffre. Marseille, capitale de la rupture. Aux colons de la belle cité de Fossé, tous leurs plans ne sont qu'à l'opposé de la tradition de l'esprit de la ville millénaire qui a toujours rassemblé les communautés. Terre d'accueil ouvert à l'autre, rebelle au roi, terre d'asile des apôtres. Commence à la porte de l'Orient, élu capitale de la culture. MARSEI2LE est à la une. Je reconnais plus ma ville, paraît qu'elle est devenue bien pub. Choque des cultures 2013, prix de vitesse, flic et caméra à chaque coin de rue. Expulsé pour du business, comme ce qui reste, esprit démoli comme ces murs qu'on a toujours tenus. Alors je dédicace les petites teignes anti-système. Ou pire, qu'est-ce que les miens vont devenir? Nos rues se remplissent de tristesse. Un genre d'apartheid se dessine. Nos zones n'étaient pas que livrées. La camaraderie, la vraie, la joie, y'avait pas de carabine. Car la gymnase, ici la jeunesse est en péril. Rien n'est fait pour elle et ça c'est vrai depuis des piges. Entassé dans des blocs, la celle ici c'est dans le gym. Plus de place dans les réseaux, donc ça tire dans le vif. Refont nos quartiers et nous virent. Pendant que la misère s'accroît, tranquille se pavane les touristes. Pendant que mes frères sont au placard, partout les caméras nous fixent. Pour mieux aseptiser chaque place et l'identité de la ville. Marseille, capitale de la rupture. Marseille, capitale de la rupture.
C'était Kenya Arcana, capitale de la rupture. Et on continue dans la rubrique nationale. Une petite brève qui nous vient directement de Brest. Et c'est une bonne nouvelle. C'est une manifestation de lycéens et lycéennes du lycée Dupuis de l'Aume de Brest qui, mardi dernier, ont organisé un sit-in pour protester contre l'expulsion de leur camarade qui est un jeune malien scolarisé en bac pro au même lycée et qui avait reçu une obligation de quitter le territoire. Son avion devait décoller samedi demain matin. Et le préfet a accepté, suite à cette manifestation, de suspendre l'expulsion. Donc on ne sait pas tout à fait ce que ça veut dire, suspendre l'expulsion. Mais voilà, une première victoire de cette lutte des lycéens et lycéennes à Brest. Bravo!
Et voilà, et maintenant je vais vous parler donc de la mort donc d'Angelo Garand, puisque un an et demi après sa mort, donc pour rappel, il a été abattu par des hommes du GIGN qui étaient venus l'interpeller. Donc une juge d'instruction a décidé qu'il n'y avait pas lieu de poursuivre donc ces personnes qui ont tiré, donc les flics. Une décision du coup inadmissible pour la famille de la victime. Qui va faire appel et donc ils ont produit un communiqué que je vais vous lire ici. Donc ce jeudi 11 octobre, nous apprenons que pour l'institution judiciaire, les deux gendarmes de l'antenne du GIGN de Jouy-les-Tours, mis en examen pour avoir le jeudi 30 mars 2017 à Sœur abattu de 5 balles dans le torse, notre proche Angelo Garand, n'auraient pas lieu d'être jugés. Les réquisitions du procureur ont été suivies par une ordonnance de non-lieu en faveur des gendarmes qui auraient donc tué Angelo en situation de légitime défense. Nous, partie civile de la famille d'Angelo, dont plusieurs présents sur place au moment des faits, allons faire appel de cette décision inadmissible. Depuis le début, nous contestons formellement la version mensongère des gendarmes, seule à avoir été prise en compte au détriment de nos témoignages et de nos observations suite aux réquisitions du non-lieu du parquet. Nous avions espoir que face aux faiblesses de l'enquête dans ses premiers moments, aux incohérences et aux invraisemblances lisibles dans le dossier, un vrai procès contradictoire serait publiquement tenu pour confronter les parties en présence. Nous sommes aujourd'hui dévastés par la décision contraire qui a été rendue, signée d'une autre juge que celle qui avait instruit l'information judiciaire et mis en examen les deux tireurs contre l'avis du procureur de Blois pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Nous avons découvert, à travers cette décision, que la juge qui avait mené l'enquête, qui nous avait auditionnés, qui avait décidé il y a un an de la mise en examen juste après s'être rendue sur les lieux des faits, juste après avoir aussi réentendu les deux tireurs, a été déplacée ailleurs et sur un autre poste dans le courant de l'été. Cette décision de non-lieu prononcée par une juge nouvelle, venue et inconnue, nous assomme, nous écrase et nous nie encore et toujours plus après tout ce que nous avions déjà eu à endurer. Il est hors de question de nous y résoudre. Plus que jamais, on court tant qu'on peut. Quelques heures seulement après que nous ayons reçu la décision de la juge, l'avocat des mises en examen se félicitait de cette décision dans un journal de gendarmes. Cet avocat est aussi celui du gendarme qui a tué Henri L'Enfant, un autre voyageur de 23 ans, à la fin du mois de septembre. Nos pensées vont à la famille de cette nouvelle victime. Parce que la mort d'Angelo est intolérable, parce que la justice refuse à ce stade de juger les deux gendarmes auteurs des tirs mortels, et parce que nous contestons radicalement leur version des faits, invoquant la légitime défense, notre famille va dès demain faire appel de l'ordonnance de non-lieu avec le collectif Justice et Vérité pour Angelo. Et donc nous appelons un rassemblement samedi 13 octobre à Blois, 16h, donc ça s'était passé évidemment. Place de la République devant le palais de justice. Nos pensées iront au même moment vers la famille d'Adama Traoré qui appelle le même jour à une manifestation contre le mensonge d'État et le déni de justice à Paris. Et plus que jamais, ainsi que nous allions le faire alors que nous étions toujours dans l'attente de la décision en clôture de l'information judiciaire, nous invitons celles et ceux qui, comme nous, s'y reconnaissent à s'associer en nombre à la mobilisation Justice, dignité ou rien du collectif Rosa Parks. Donc voilà, c'était le communiqué de la famille sur la mort d'Angelo suite au non-lieu du coup en faveur des gendarmes qui ont tué Angelo.
Et on leur souhaite beaucoup de courage pour la poursuite de cette lutte. On passe à un autre sujet. On vous repart de Linky. Linky, c'est ce compteur intelligent, entre guillemets, bien évidemment, qui sont censés informer en temps réel de vos consommations d'électricité et que la société Enedis essaie d'installer avec beaucoup de détermination, malgré les nombreuses résistances dans tous les immeubles et dans toutes les maisons depuis quelques temps. Et on vous reparle parce que il paraît que ces compteurs Linky ont tendance à s'enflammer ou bien à exploser et à causer des incendies d'une certaine gravité. Là, le dernier événement dont on a entendu parler, ça date de samedi dernier, le 13 octobre. Un compteur Linky a pris feu dans un pavillon à Chalette-sur-Loing. Et c'est une panne de courant qui a alerté le couple de retraités qui habitait le logement. Ils sont allés vers le compteur pour le mettre en route. Mais en fait, le compteur même, il a explosé juste quand ils étaient là. Ils ont pu se mettre en sécurité, mais le couloir a pris feu. Le feu a atteint les escaliers, le toit. Il n'a pas détruit intégralement la maison, mais il y a bien évidemment énormément de dégâts. Et ce couple de retraités est actuellement hébergé par leurs enfants. Ils ont trouvé le soutien de leurs voisins pour les semaines qui vont arriver. Ce qui pose problème, c'est que ce n'est pas le premier incendie causé par un compteur Linky, et surtout que la compagnie Enedis continue à nier les dysfonctionnements de ses compteurs. Enedis, c'est donc le gestionnaire de réseau responsable des installations du compteur Linky. Et il continue à affirmer que c'est peut-être le disjoncteur du tableau de comptage qui a pris feu et non le compteur en lui-même. Et que les compteurs Linky ont été testés en laboratoire et ils n'explosent pas. Cependant, bah, y a plusieurs témoignages de compteurs Linky qui explosent dans les habitations. Du coup, cet incendie est loin d'être un cas isolé. Parce que rien que pour l'année 2017, un collectif avait recensé pas moins de 216 incendies, parmi lesquels certains ne sont pas restés sans gravité. Voici quelques exemples. Le 1er janvier 2017, un compteur électrique en surchauffe, entre guillemets, indiquait les gendarmes, cause l'incendie d'une exploitation agricole à Plubalet, à côté de Dinan, dans les Côtes d'Armor. Un hangar de 700 mètres carrés prend feu, puis un second. Un troisième est sauvé des flammes par les pompiers, mais il ne pourra empêcher la perte de 2400 cochons. Une catastrophe pour les animaux et pour l'agriculteur. Ensuite, il y a eu des incendies causés par des compteurs Linky à Chauny le 15 avril 2017, à Bièvre le 2 novembre 2017, à Châteauneuf, les Martigues le 20 février 2018, à Montauban le 16 juin. La liste est encore longue et compte tenu de l'objectif fixé par Enedis d'équiper tous les logements français d'ici quelques années, il est fort à parier que de nombreux incendies seront encore malheureusement à déplorer. Il faut aussi rappeler que le risque d'explosion qui est à l'origine de ces centaines d'incendies n'est pas le seul danger du compteur intelligent d'Enedis. Intelligent toujours avec des gros guillemets. Il y en a bien évidemment d'autres et notamment les agressions perpétrées par les installateurs. En fait, Enedis a pour objectif d'imposer avant 2021 tous les foyers français de leur compteur Linky. Bien qu'ils tombent souvent sur des gens qui ne rechignent pas à ce qu'on leur installe le compteur communicant, d'autres foyers français le refusent catégoriquement et les techniciens Enedis utilisent des fois ou souvent la force pour les installer. C'est ce qui est arrivé à Pau et à Orange. Une paloise de 88 ans a été victime d'une agression à son domicile le 22 décembre 2017 par un installateur Linky. Les personnes de l'immeuble qui étaient eux aussi contre Linky sont venues en secours de la femme, tandis que l'installateur forçait le passage de la porte de la dame âgée pour lui installer contre sa volonté le compteur. Même cas de figure lors d'un autre refus à Orange le 1er août 2018. Prévenu 30 minutes à l'avance, un chef d'entreprise de 70 ans a insisté pour refuser. Mais l'installateur s'est quand même rendu dans l'entreprise et a demandé d'un ton imposant à voir le directeur. Ce dernier lui a demandé de sortir de ses locaux et même contraint de le repousser, il recevra une claque. Il faut aussi savoir que les installateurs de Linky, ils ont une prime s'ils arrivent à installer au moins 10 compteurs par jour, ce qui les pousse sûrement à un travail un peu à la chaîne et à pas mettre forcément les formes. Et ensuite, c'est important de rappeler que l'autre inquiétude par rapport à Linky concerne les collectes des données que peut récolter le compteur intelligent. En effet, sa technologie des courants porteurs en ligne a interpellé la Commission nationale de l'informatique et des libertés sur l'utilisation de cette technologie dont Enedis pouvait en tirer profit. En fait, Linky peut bien évidemment avoir des informations sur les habitudes de consommation des personnes qui l'utilisent et donc des informations sur la présence à la maison, sur le nombre d'occupants, des informations qui peuvent être vendues potentiellement à des fins commerciaux par Enedis. Voilà, donc il y a quand même des actions de justice qui sont en cours contre Linky et contre Enedis. Et on vous invite, si votre immeuble a été épargné pour l'instant, bah de vous souvenir que vous pouvez toujours refuser l'installation de Linky. Mais faites attention à vous si vous le faites.
Dans la rubrique internationale du Canu Info, on entend l'écho de lutte, on écoute des reportages insoupçonnés de manifestations à travers le monde, On évoque des thèmes variés comme le gaz de schiste.
Et d'exploitation de gisements de gaz de schiste.
Les mouvements sociaux, les luttes et la France-Afrique. Bonne écoute dans la rubrique internationale.
J'ai trouvé de drôles de rumeurs sur le gaz de schiste. Il paraît que ça pourrait contaminer les autres sources, que ça tuerait les cultures aussi. Certains ont dit qu'ils ont pu mettre le feu à leur eau courante. On parle aussi de cas de cancer. Oh, Steve, ça a l'air vilain, non?
Il nous faut plus de gaz. Plus de gaz. Plus de gaz.
Attention, on va en arriver à des extrémités. Il y a des dépôts qui vont se mettre à flamber. Il ne faudra pas demander d'où ça vient.
Et oui, et en Angleterre, ils veulent plus de gaz, puisque je vous en parlais la semaine dernière, mais donc là, je vous donne encore quelques autres news. Donc, qu'est-ce qui se passe un peu là-bas? Eh bien, il y a la reprise, enfin, en tout cas, il y a une, ils ont entamé la prospection et la fracturation hydraulique donc là-bas. Et donc, il y a eu... Il y a eu donc le 17 octobre, donc je vous parlais de trois militants qui avaient été qui avaient subi des lourdes peines de prison, puisqu'ils avaient subi de la prison ferme pour avoir empêché le début du chantier. Et donc du coup le 17 octobre, donc cette semaine, la cour d'appel de Londres a examiné donc le cas de ces trois personnes manifestantes anti-fraction hydraulique. Et ils ont prononcé que la peine était manifestement excessive. Donc, voilà, pour rappeler, la peine, c'était 16 mois de prison ferme pour deux personnes et 12 mois de prison avec sursis pour une autre. Pourquoi ? Pour être monté sur des camions et avoir bloqué l'accès au chantier pendant 80 heures à peu près, voilà. Et donc pour ça, eh ben le premier jugement avait été prison ferme, etc., etc. Et donc ça avait été extrêmement sévère. Et aussi pour rappeler, c'est que au Royaume-Uni, c'est aussi une première depuis pas mal d'années, depuis 1932 très exactement, où des militants sont envoyés en prison suite à une manifestation de cet ordre-là. Donc juste pour être allé manifester, en gros quoi. Donc là, le 17 octobre, quand il y a eu la décision de la cour d'appel, il y a eu une assez forte mobilisation pour soutenir les trois prisonniers et revendiquer donc le droit de manifester contre le fracking. Fracking, c'est le terme anglais pour désigner la fracturation hydraulique. Et alors cette histoire de peine lourde et de pourquoi du coup ils ont jugé ça manifestement excessive. Cette peine, c'est que quelques jours après la condamnation de ces personnes, le journal Mirror avait révélé que le juge avait quand même pas mal de liens familiaux avec l'industrie des services aux sociétés pétrolières, puisqu'en fait ses parents, sa frangine et tout team, ils sont les dirigeants d'une société qui s'appelle JC Alta Mason et qui sont les fournisseurs, ni plus ni moins, de la société donc Quadrilia qui va opérer le chantier là-bas dans la région de je vais retrouver le nom de Lancashire, voilà, du comté de Lancashire. Suite à cette révélation, du coup, les avocats ont fait appel et ont gagné cet appel, heureusement pour les personnes qui se sont fait arrêter. Mais, alors, du coup, ça, c'est pas fini, parce que, on est content parce qu'ils se sont libérés. Par contre, ce qui s'est passé, c'est que, ben, pour autant, Quadrilia n'a pas à continuer à faire son forage. Et donc, ils ont attaqué lundi. Alors, ils ont attaqué donc cette semaine, malgré un référé donc pour bloquer le démarrage des opérations, et qui a du coup été rejeté la semaine dernière. Donc voilà, donc ça a commencé lundi. Il faut savoir que c'est une première depuis 7 ans, puisque ça fait pendant toute cette période-là, depuis 7 ans, qu'il y a une mobilisation continue de la population contre l'exploitation du gaz de schiste là-bas. Il y a une opposition du comté de Lancashire sur place, mais ben, malgré tout ça, le pouvoir central a donné l'autorisation de forer, puis de pratiquer la fracturation hydraulique. Et comble de l'ironie, les opérations de fracturation hydraulique, donc, qui ont été lancées donc ce lundi-là, eh ben, ont été lancées aussi, ça correspond en fait cette semaine à la semaine, ce qu'ils appellent la semaine de l'écologie en Grande-Bretagne. Donc, je cite, c'est une semaine annuelle conçue pour mettre en valeur les opportunités offertes par la croissance propre au Royaume-Uni et pour faire mieux comprendre comment les entreprises et le public peuvent contribuer à une lutte contre le changement climatique. Donc voilà, donc ils ont inauguré cette grande semaine de l'écologie en allant faire de la fracturation hydraulique par là-bas. Donc alors, il faut savoir que le gouvernement conservateur pèse de tout son poids en faveur de l'exploitation de ce fameux gaz de schiste, non content de passer par-dessus les élus locaux, puisque le comté de Lancashire était complètement contre. Il a assoupli les régulations en place et envisage de les assouplir encore davantage, notamment en ce qui concerne les règles relatives aux séismes entraînés par la fracturation hydraulique, donc règles qu'ils ont jugées trop précautionneuses. Les ministres concernés soutiennent eux aussi une ligne dure à l'encontre des militants anti-fracking. Comme on a pu le voir sur le jugement qui a été prononcé contre ces trois militants, dans un contexte où les firmes recouvrent de plus en plus à des injonctions de justice pour empêcher d'approcher leur site. Donc il y a une interdiction formelle et si on s'approche, c'est prison ferme. Alors là on vous parle de Lancashire. Il faut savoir que en Grande-Bretagne il y a d'autres projets d'exploitation de gaz de schiste qui sont à l'étude, mais aucun n'a vraiment débuté du fait de la complexité des procédures d'autorisation et de la réticence notamment, voire de l'hostilité d'une partie des personnes qui vivent sur les sites concernés. Donc le gouvernement britannique a donné son accord à Aquadria, donc en Angleterre, pour ce site-là de Lancashire. Mais les autorités régionales d'Édimbourg, par exemple, s'opposent en revanche à tout projet de production de gaz de schiste en Écosse, au nord. Et donc il faut savoir que là, la société concernée, c'est Aquadria. Il y en a plusieurs autres entreprises qui détiennent des licences d'exploration dans différentes régions du pays, notamment l'entreprise chimique Ineos. Et à noter quand même que Total, vu qu'il s'est fait refoule de France récemment, il avait plus ou moins prévu le coup, parce que ça fait déjà quelques années qu'il a investi des parts dans des gisements britanniques, et ça reste le seul grand groupe majeur qui détient encore des parts en Grande-Bretagne. Donc voilà, donc on est très content pour les trois militants qui ne vont pas faire 16 mois ferme pour être montés dans un camion. Par contre, on espère que la lutte va continuer là-bas sur place contre cette exploitation de gaz de schiste qui a tout juste débuté cette semaine. Voilà.
On fait quoi maintenant ?
Devine, mon premier est une personne qui n'a pas mangé. Mon second est oui en russe. Et mon tout est un outil permettant d'associer des actions et des moments et d'organiser ainsi son temps. C'est...
L'agenda !
Donc ça va être un mini-agenda aujourd'hui, comme souvent sur le Canyon Info du vendredi. Alors, première info de l'agenda, c'est notamment pour les personnes qui se trouvent en Bretagne et notamment à Douarnenez ou qui peuvent y aller d'ici peu parce que il s'agit d'un week-end qui commence aujourd'hui jusqu'à dimanche 21. Et c'est des rencontres féministes autour de la navigation. Donc, c'est un week-end qui va se passer en mixité choisie. Meufs, trans, pédéguines et intersexes et queer. La majeure partie du temps avec des moments où la mixité choisie sera spécifiée. Donc c'est des rencontres contre le sexisme, l'homophobie, la transphobie. sur les navires et sur les rivages. Donc il y aura des ateliers techniques et lyriques, il y aura de la navigation à la voile et des discussions. Et on vous en parle parce que moi personnellement je suis très jalouse de ne pas pouvoir y aller. Et c'est la première édition. Donc si vous voulez y aller, vous pouvez annoncer votre venue ou avoir des informations supplémentaires à l'adresse mail suivante seawomen@list.riseup.net. Là, ça, c'était pour le côté breton de l'agenda. Sinon, à Lyon, qu'est-ce qui se passe ce week-end ? Du jeudi 18 au dimanche 21 octobre, ont lieu à Lyon des multiples événements pour revenir sur la marche solidaire pour les migrants et migrantes qui a rassemblé plus de 2500 marcheurs et des milliers de sympathisants à travers la France l'été dernier. Cette marche solidaire pour les migrants et migrantes était partie de 20 000 le 30 avril pour arriver à Calais et puis Londres les 7 et 8 juillet. Co-organisée par la Roya Citoyenne et l'Auberge de Migrants, ces 1400 km parcourus à pied ont été l'occasion de rencontres et d'échanges à la rencontre de multiples collectifs militants, citoyens, associations, élus, observatoires, organismes concernés par l'accueil des personnes migrantes en France. Donc, il y a plusieurs événements qu'on ne va pas vous détailler parce que vous les trouvez sur le site Rébellion. On vous invite à aller voir du coup sur ce site et à y participer. Le Canu Info du vendredi finit à 20h pile pour une fois.
Oui.
Et on vous laisse avec
Noise Pollution.